BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% uploadé. On est parti pour 2h30 d'autonomie complète jusqu'à 18h au rythme des marchés. Le CAC 40 est en petite hausse. Allez, après la petite hausse d'hier, encore une petite hausse aujourd'hui, ça fait du bien. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne, entre les 10 ans français et allemands, cet écart de taux se stabilise. Voilà, on va le dire comme ça. Se stabilise à 70 points de base aujourd'hui. 70 points de base, donc l'écart entre la France et l'Allemagne. On va parler d'un titre aujourd'hui qui recule nettement. C'est la lanterne rouge du CAC, Carrefour, avec peut-être une grosse amende à venir pour Carrefour. Le titre perd 4%, on en parlera avec nos experts. Mais d'abord, priorité au direct et l'ouverture à Wall Street. Il est 9h30 à New York, 15h30 ici à Paris. Et la cloche qui retentit donc aux États-Unis. Premiers instants de cotation, c'est le soleil qui, sur les marchés, se lève toujours à l'ouest. Aux États-Unis, le grand réveil de Wall Street. John Plassard est avec nous. Bonjour John, depuis au bureau de Mirabeau.
Bonjour Guillaume.
Étienne Brack nous accompagne, lui, depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne. Comment Wall Street se réveille-t-il?
Bonjour à tous. Eh bien, avec des nouveaux records, une fois de plus, rendez-vous compte, on doit être à la 7e séance dans le vert consécutive pour l'indice Nasdaq, avec un indice qui culmine désormais à la porte des 18 000 points, 17 865 points, le Dow Jones qui est stable à 38 778, quand le S&P est également sur des niveaux records plus 0,1% à 5 476 points, avec une semaine un petit peu particulière aux États-Unis. Il y a pas mal de ponts, faut pas oublier que demain, il n'y aura pas de cotation du côté de Wall Street. Néanmoins, ça continue de tenir grâce toujours aux trois magnifiques, Microsoft, Apple et puis Nvidia, et puis grâce notamment à des données encourageantes, John nous en parlera dans un instant, qui font détendre l'obligataire. Le 10 ans américain perd 3 points de base à 84, quand le 2 ans de son côté perd 5 points de base à 4,71. À noter que l'euro-dollar se stabilise à 1,0734. Les matières premières, à commencer par le pétrole, continuent de légèrement grimper comme ces derniers jours, avec un Brent à la porte des 85 $, quand le WTI est à 80 $, et donc Wall Street qui ouvre sur des niveaux records, notamment pour le S&P et pour le Nasdaq, avec une nouvelle séance dans le vert.
Effectivement, encore des plus hauts historiques et des indicateurs macroéconomiques très intéressants pour mesurer la dynamique américaine. Est-ce qu'on est toujours sur l'idée d'un ralentissement de l'économie aux États-Unis, John ?
Un léger ralentissement, parce que si on regarde, Guillaume, la production industrielle, on passe de 0 à 0,9% sur la production industrielle. Donc, on est au plus haut depuis juillet 2023. Donc, on voit que de ce côté-là, ça va bien. D'un autre côté, on a eu les ventes au détail. Les ventes au détail, c'était un des chiffres clés de la semaine. Eh bien, tenez-vous bien qu'ils ont augmenté de 0,1% en glissement annuel, pardon, en mai 2024, après une baisse de moins 0,2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est légèrement positif, mais le consensus était logé à plus 0,4%, donc c'est moins que prévu. Donc c'est un autre signe d'un certain refroidissement de l'humeur du consommateur. Ce qui est très intéressant de regarder, Guillaume, c'est au sein des détails de ces ventes de détails. Et on voit que les articles de sport, de passe-temps ont enregistré une nette hausse. En revanche, de l'autre côté, on a les ventes des stations-service qui ont diminué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens prennent toujours de l'essence, mais avec un prix du baril qui est un peu plus haut, eh bien, on voit que, évidemment, ça a un impact sur les ventes au détail. Et puis, dernière chose qui est aussi important de noter, c'est que le composant vente au détail groupe de contrôle, qui exclut les concessionnaires automobiles, les matériaux de construction, les stations-service, eh bien, passe de moins 0,5% à plus 0,4% en mai. Et tenez-vous bien, cette composante, donc, qui progresse assez fortement, rentre dans le calcul de l'inflation PCE. Ça voudrait dire que potentiellement, l'inflation n'est pas prête de se dégonfler, en tout cas durant le mois de mai.
Effectivement, alors on va continuer de suivre tout ça de très très près. Et puis aussi, la vision que les investisseurs se font des différents marchés. On en parlera tout au long de l'émission aujourd'hui. La vision sur l'Europe est en train de se dégrader du fait de la France, de ce qui se passe en France. Et les analystes, les économistes, les investisseurs, surtout qui suivent les marchés européens, sont de moins en moins optimistes sur les perspectives de croissance en Europe. C'est ce qui ressort d'une étude Bank of America Securities. On va en parler avec nos experts. Et manifestement, la France est peut-être en train de devenir le marché le moins aimé d'Europe par les investisseurs. Mais on va aussi regarder du coup ce que c'est investisseurs, ces grands acteurs, les institutionnels pensent de Wall Street. Parce que vous le disiez, Étienne, Wall Street, pendant ce temps, continue d'avancer. C'est un nouveau record aujourd'hui sur les indices. La vision que les investisseurs ont de Wall Street est intéressante à suivre également.
Oui, en effet, puisque tous les objectifs qui ont été fixés en début d'année ont déjà été fixés, John Plassard. Donc forcément, le marché court un petit peu après le papier et c'est compliqué là pour les différentes grandes banques américaines de fixer des objectifs sur les grands indices américains.
Oui, vous l'avez dit, tous les paris de début d'année sont déjà battus pour le S&P 500, que pour la fin de l'année. Donc on a plusieurs acteurs, dont Citigroup, qui remonte ses estimations sur le marché américain, et notamment sur le S&P 500, en passant d'un objectif de 5100 à 5600 pour la fin de l'année. Et évidemment, un des arguments majeurs, c'est la technologie, c'est les 7 magnifiques et les 3 que vous avez dit en préambule, Guillaume. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'en début de semaine, on a eu Goldman Sachs et aussi Evercore qui sont passés positifs, plus positifs sur le marché américain en remontant leurs estimations sur le S&P 500. Donc on voit ici qu'il y a un désamour, comme vous l'avez dit, de l'Europe et notamment de la France. Et de l'autre côté, eh bien, les gens reviennent sur ce qu'on appelle les valeurs sûres, qui sont les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Oui, je l'ai dit, Guillaume.
Ça y est, au moins on aura prononcé le terme au moins une fois aujourd'hui dans USA Today. Et John, d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que Wall Street est sur des records, mais vous avez publié d'ailleurs un tweet intéressant tout à l'heure sur le sujet. Ces records, ces hausses, jour après jour des marchés américains, elles tiennent vraiment de plus en plus sur une jambe, sur à peine quelques valeurs quand même, il faut le souligner.
Oui, tout à fait. Et on en avait parlé en fin de semaine dernière sur la concentration des indices. Et on voit qu'ici, la concentration ne se fait plus sur 10 valeurs, mais elle se fait sur 5, 4, 3 valeurs. Et bien évidemment, le nom qui reste en tête, c'est Nvidia, mais aussi Microsoft et Apple, dont on parle un peu moins, mais qui tirent littéralement les indices. Et bien évidemment, ceux qui sont en retard, eh bien, ne font pas le poids, c'est le cas de le dire, face aux 3, 4 premières valeurs.
Effectivement, et d'après les calculs de Sherwood, nous n'avions jamais connu une période de 4 semaines au cours de laquelle Wall Street progressait autant, avec autant de valeurs, malgré tout, en baisse. Intéressant, et on en parlera, et vous le soulignez aussi, John, évidemment, on vous suit aussi sur les réseaux sociaux. Les marchés américains qui suivent aussi de près la campagne électorale, on est à 140 jours maintenant de la présidentielle aux États-Unis. Et on va évoquer, John, cette proposition choc de Donald Trump concernant la taxation des pourboires.
Oui, c'est très important. Donald Trump veut tout simplement arrêter la taxation des pourboires. Vous savez qu'aux États-Unis, eh bien, c'est monnaie commune, hein, surtout pour les personnes qui travaillent dans le secteur du service. Eh bien, en faisant sa promotion dans le Nevada, où il faut rappeler qu'il y a un quart des personnes qui travaillent dans le Nevada qui travaillent pour le secteur des services, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, bien évidemment, il y a Las Vegas dans le Nevada, eh bien, Donald Trump voudrait et a dit que le premier jour où il rentrait à la Maison-Blanche, s'il est élu, bien évidemment, eh bien, il annulerait les taxes sur les pourboires. Il faut faire juste un peu attention parce que ça nécessite notamment l'approbation du Congrès. Et on a eu aussi, juste après ces déclarations de Donald Trump, eh bien, des estimations de combien ça coûterait. Et selon les calculs, cela ajouterait, tenez-vous bien, Guillaume, entre 150 et 250 milliards de dollars au déficit du budget fédéral américain sur 10 ans. Donc évidemment, c'est bien pour les travailleurs et les gens qui travaillent avec des pourboires, mais le problème, c'est que la dette.
Effectivement, la dette. On voit ici en France, ça n'a pas l'air d'être un problème dans les programmes. Bon. C'est ça la politique en 2024. Wall Street vient d'ouvrir, on le répète, on est dans le vert. Nouveau record sur le S&P, plus 0,2%. Sur le Nasdaq, plus 0,04%. Étienne, une valeur à suivre aujourd'hui, le titre Boeing.
Boeing qui perd un peu plus d'1% dans les premières minutes de cotation, avec la valeur qui va encore faire l'actualité aujourd'hui, John Plassard, puisque ce soir à 20h, heure française, le patron démissionnaire de Boeing sera auditionné par le Sénat américain.
Exactement, c'est une sous-commission permanente du Sénat américain qui va mettre littéralement sur le grill Dave Calhoun au sujet de la politique de l'avionneur en matière de sécurité, parce que Boeing a eu de nouvelles plaintes et il y a un rapport qui vient de sortir il y a à peine 15 minutes qui fait état d'environ 300 à 400 pièces d'avion 737 MAX, vous savez, dont on parle beaucoup, qui seraient endommagées ou défectueuses depuis l'année passée. Donc, de nouvelles plaintes et évidemment un ciel des plus nuageux pour Boeing et son ancien PDG.
C'est le cas de le dire, effectivement. Et puis, un mot d'Elon Musk, on se souvient de sa méga rémunération qui a été votée par les actionnaires, c'était il y a quelques jours. Elon Musk, il veut aussi mieux rémunérer ceux qui, parmi ses employés, travaillent bien, John.
Exactement, et Donald Trump, j'allais dire, mais Elon Musk, bien évidemment, veut absolument travailler sur une rémunération en actions pour les salariés les plus performants. C'est-à-dire que les salariés considérés comme plus performants, eh bien, auraient des actions Tesla, tout ça pour évidemment dynamiser la productivité. Mais on imagine bien que Elon Musk, après que les actionnaires aient accepté ce méga package de plus de 50 milliards de dollars de rémunération, eh bien, essaye ici de leur dire merci à sa façon.
Effectivement, merci beaucoup. John Plassard en direct avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Étienne Brack nous accompagne, lui, tout au long de l'après-midi depuis la tour Euronext. Wall Street et le S&P notamment ont ouvert dans le vert. On est en hausse, petite hausse de 0,1% sur le S&P 500. Le CAC 40 aussi est en progression aujourd'hui de 0,7%. Un petit mot quand même de l'écart de taux, parce que c'est ce qu'on va suivre jusqu'aux législatives et peut-être même au-delà, entre la France et l'Allemagne. Cet écart de taux, il reste stable depuis hier, 70 points d'écart de taux, donc toujours une vigilance du marché sur la France, mais pas non plus d'incendie manifestement à ce stade. 70 points d'écart de taux, donc aujourd'hui encore, un peu comme hier, entre la France et l'Allemagne. Et si vous vous demandez quel potentiel attend les marchés, réponse dans, 10 minutes avec Julie Cohenerton et ses experts. Notre portefeuille trading BFM Bourse aussi, Alexandre Tixier sera avec nous. Il nous dira quel potentiel technique nous attend sur l'indice CAC 40 et les différentes valeurs. Mais d'abord, 15h42, la Bourse cash. Aymeric Guidé nous rejoint, directeur de la gestion de Pergam. Bonjour Aymeric.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez dire aujourd'hui, Aymeric, leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr?
Sûr, totalement sûr.
Pour vous, et c'est le message que vous venez délivrer aujourd'hui, alors que la France est scrutée par le monde entier, pour vous, le pire n'est jamais certain en bourse. C'est le message que vous venez faire passer. Le pire n'est jamais certain en bourse. Vous l'assumez, ce message?
Ah, totalement, oui.
Ah, et pourquoi était-il urgent de le dire aujourd'hui?
Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde qui s'offusque de tous les programmes possibles et imaginaux et qui donne aux politiques une importance qui est certes importante, mais pas tant que ça aux yeux des marchés financiers. Historiquement, quand on a des sujets politiques ou géopolitiques, on a d'abord du bruit qui donne beaucoup de volatilité, mais au final, l'économie perdure et arrive à s'en sortir malgré tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient faire passer le message de dire attention, il faut pas non plus croire que du jour au lendemain, quel que soit le parti qui va être mis en avant, rien n'est sûr aujourd'hui. Que ce soit le résultat, que ce soit les différentes majorités ou pas, mais surtout, l'avantage, c'est que les entreprises, notamment privées, sont souvent très bien gérées, savent s'adapter, et qu'encore une fois, on a pas mal d'exemples qui nous prouvent que, heureusement, on donne souvent un peu trop d'importance à ces sujets politiques.
Mais on a coutume de dire, d'entendre et de voir que le marché déteste l'incertitude. Là, on a une sacrée incertitude sur la France, mais vous, pour le coup, même pas peur. Du point de vue des marchés, vous dites, bon, ok, il y a eu grosse secousse la semaine dernière, mais le pire n'est jamais certain quand même, quoi. On peut peut-être avoir malgré tout de bonnes surprises, même si sur le front économique, peu de programmes semblent crédibles.
Bonne surprise, vous dites... j'irai peut-être pas jusque-là.
Ah, voilà.
Par contre, de dire qu'aujourd'hui tout est catastrophique, que ça va être un drame sur les marchés financiers, là pour le coup, on met quand même un certain bémol. Oui, il y a de l'incertitude. Incertitude égale baisse des marchés. C'est ce qu'on a vécu très clairement toute la semaine dernière, avec une baisse de plus de 6% pour le CAC, mais de 11% pour les petites valeurs, les small caps, dans un marché américain qui était en hausse. Donc clairement, aujourd'hui, on a eu cette épreuve, cette incertitude qui était forte, qui génère cette volatilité. Mais à côté de ça, quand on regarde dans l'histoire qu'on a eue, finalement, on s'en sort souvent très bien, quel que soit le parti au pouvoir.
Qu'est-ce qui vous amène à penser que le pire est peut-être passé, en tout cas que le marché ne va pas forcément lourdement corriger encore dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce qui vous amène cette forme de sérénité, même si sur le front politique, on a compris que vous n'étiez pas non plus extrêmement serein là-dessus? Mais enfin, du point de vue du marché, pas de raison de paniquer. Pourquoi ?
Les entreprises sont privées, ça c'est la première chose. Deuxièmement, quand les politiques votent des lois, ils sont encadrés. Ils n'ont pas tout libre pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent du jour au lendemain. Heureusement, on est dans des démocraties qui sont encadrées, avec des cadres qui sont bien posés, des cadres budgétaires aussi sur lesquels ils sont obligés de respecter certaines normes, notamment grâce à l'Europe, qui impose aussi un cadre budgétaire au pays. Et puis également...
Oui, mais le programme du Front Populaire, ils disent qu'ils sortiront du cadre budgétaire. Ils l'assument, c'est dans le programme.
Et on verra bien. Mais en tout cas, ils prendront les amendes aussi s'il faut de la part des régulateurs européens. Donc ça ne ferait qu'empirer les choses. Et regardez ce qui s'est passé en Italie. En Italie, il y avait un programme relativement fort, notamment économique, qui avait été annoncé par la présidente du Conseil italien, et clairement, elle reconnaît qu'elle n'a pas pu tout mettre en place, que ce soit d'un point de vue idéologique, mais aussi d'un point de vue économique. Donc on voit qu'il y a quand même aujourd'hui des réserves par rapport à tout ce qui est annoncé pendant les campagnes, qui peut être quasi sans limite, hein, puisque les annonces sont faites pour pas forcément être mises en place et respectées. On l'a bien vu par le passé.
Oui, puis on voit aussi d'ailleurs le Rassemblement National mettre un peu d'eau dans son vin sur certains points. Bon, c'est vrai.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se comparer à l'Italie ? L'Italie a énormément besoin de l'Europe et donc elle doit respecter effectivement un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'Europe pour obtenir de l'argent. Elle est dans cette situation-là, l'Italie. La France est un peu moins quand même dépendante de l'Europe, non ?
Tout petit peu moins. Quand même, heureusement, on est dans un cadre européen. On est un des pays comme l'Italie, membre fondateur de l'Europe et un des piliers de l'Europe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre non plus.
Oui, mais on donne plus qu'on ne reçoit. Donc, voilà. Oui, non, mais je suis d'accord.
On ne peut pas s'affranchir évidemment important. Des règles européennes. Et puis encore une fois, il y a plein d'autres exemples qui ont montré que les marchés, les économistes ont souvent vu le pire. Regardez ce qui s'est passé quand Donald Trump a été élu. Tout le monde pensait que économiquement, ça serait un drame, une catastrophe sur le programme de Donald Trump. Quand on voit la croissance qu'ont connue les Américains pendant cette période...
Qu'il avait une politique et un programme pro-business. Là, vous voyez beaucoup de programmes pro-business dans ce qui nous est proposé. Il n'y en a pas un seul.
Non, mais n'oubliez pas que...
Pro impôt, regarde, oui, là, il n'y a pas de problème. Pro dépenses, il n'y a aucun problème.
Mais par contre, n'oublions pas que si on prend les entreprises du CAC 40, par exemple, puisque ce sont celles qui ont beaucoup baissé, qu'on voit avoir beaucoup baissé la semaine dernière, quand on regarde le chiffre d'affaires du CAC 40 qui est fait en France, on est en dessous de 20%. On est plutôt à 15%. Donc aujourd'hui, quelle que soit la politique qui sera mise en place, ces entreprises, encore une fois, sont des entreprises privées pour la plupart qui sont bien gérées. Donc c'est là où aujourd'hui l'investisseur peut essayer d'avoir un regard un tout petit peu plus moyen et long terme. Et du coup, peut-être, si il est en tout cas dans des positions de pouvoir investir sur les marchés, ben prendre quelques belles valeurs qui se sont fait sanctionner de manière extrêmement sévère la semaine dernière.
Alors là, franchement, vous nous tendez la perche. Pas le bâton, la perche.
La perche.
Alors voilà, j'allais vous demander, c'est parfait, s'il y a des valeurs, manifestement oui, dont vous estimez qu'elles offrent désormais des points d'entrée, la réponse est et oui. On a eu des grosses corrections, mais vous partez de l'idée que le marché devrait à peu près se tenir, quoi, voilà. Le pire n'est jamais certain en bourse, c'est votre message aujourd'hui. Donc des points d'entrée sans doute à venir sur certaines valeurs.
Bien sûr, aujourd'hui, on commence à regarder certaines opportunités. On voit des valeurs, je donne quelques exemples, ça va de Airbus à évidemment les concessions autoroutières qui ont tellement baissé. Toutes les sociétés de construction où on pense qu'on pourrait être renationalisé. Enfin, aujourd'hui, il y a des contrats qui sont clairement identifiés avec aujourd'hui des sociétés qui ont perdu 15 à 20% de leur valeur. Donc, si on ne fait pas aujourd'hui des positions sur ces valeurs-là, on ne commence pas à créer des positions sur ces valeurs. On n'ira jamais sur les marchés financiers. Il faut toujours avoir des liquidités dans un portefeuille pour savoir saisir de temps en temps des opportunités. Je dirais pas qu'on ira fortement sur les valeurs bancaires qui ont été là aussi très fortement sanctionnées, mais pour le coup, pour les raisons notamment d'écartement de spread de crédit, mais pour certaines valeurs industrielles, Air Liquide, Vinci ou Airbus, oui, on peut commencer à regarder ces dossiers-là.
Et les small caps qui souffrent énormément, c'est vrai, de leur exposition peut-être un peu plus grande que les grandes valeurs au seul marché français, les small caps qui ont perdu en moyenne 11% là, en une semaine, vous dites qu'il y a un point d'entrée. On va essayer de mesurer l'ampleur, la solidité de ce que vous nous dites, votre engagement, votre conviction. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à racheter les small caps aujourd'hui ?
Je suis venu il y a 15 jours pour dire small is beautiful. Oui. Donc malheureusement, oui, elles ont été ultra sanctionnées. Donc c'est très dur parce que quand on a ces problèmes de volatilité, c'est malheureusement les sociétés qui trinquent le plus aujourd'hui sur les marchés. Donc si on croit au scénario de moyen long terme de reprise des marchés, oui, ça reste quand même des points d'entrée pour constituer des lignes là-dessus. Elles ont été fortement sanctionnées. Elles sont plus impactées par la politique, là, pour le coup, que les grandes valeurs qui ont évidemment une dépendance par rapport au pro-franco-français, business pro-franco-français plus importante. Donc évidemment, elles sont plus volatiles, mais encore une fois, à moyen ou long terme, ce sont des entreprises qui offrent des perspectives relativement bonnes aujourd'hui, en tout cas.
Au miracle, d'ailleurs, aujourd'hui, le CAC Small progresse plus que le CAC 40. Le CAC Small gagne 1,3%. Ah, enfin.
Exactement.
Et le CAC 0,6. Donc le CAC Small aujourd'hui progresse deux fois plus que le CAC 40. Étienne nous appelle, 15h50, depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne. Alors comment vit-on cette séance? Comment regarde-t-on la France aujourd'hui sur les marchés? On est à 12 jours des législatives, Étienne.
Et c'est une deuxième séance dans le vert. Après un gain de 0,9% hier, le CAC 40 reprend 0,6% à l'instant, au-delà des 7600 points, 7618 points. Mine de rien, le CAC a repris 140 points depuis ses plus bas de vendredi. À noter que les volumes d'échanges sont toujours assez faibles et malheureusement, demain, comme il n'y a pas de cotation à Wall Street, ça devrait être encore le cas, mais ça devrait s'accélérer en fin de semaine puisque vendredi, c'est une échéance trimestrielle, hein, échéance très importante vendredi pour les produits dérivés. À noter que les plus fortes hausses du CAC 40 sont les plus fortes baisses de la semaine dernière. Typiquement, des valeurs comme Vinci gagnent plus de 2%, Téléperformance plus 3%. Et puis un secteur, on en parlera en détail dans un peu plus de 10 minutes à 16h, le secteur du luxe qui est plombé aujourd'hui par une étude de Bain qui s'attend à une nouvelle année de normalisation pour le secteur du luxe. Et suite à cela, vous avez LVMH ou encore L'Oréal qui perdent un peu plus d'1% et qui pénalisent la tendance aujourd'hui.
Et pour une fois, Kering d'ailleurs, pour une fois, fait mieux que les autres. La maison mère de Gucci qui a rassuré les analystes aujourd'hui lors d'une rencontre sur les performances des prochaines collections de sa marque phare Gucci. Voilà. Et pour une fois, donc, effectivement, Kering progresse alors que les autres marques de luxe sont en repli. Etienne, vous nous rappelez dès que vous le souhaitez, bien sûr, depuis la tour Euronext. Aymeric nous accompagne. Aymeric Didet, est-ce que tout ce qui se passe autour de la France, le retour de l'aléa politique, parce qu'il n'y a pas que la France aussi, au Mexique par exemple, le peso mexicain depuis la présidentielle s'est cassé la figure de 10%. On va avoir des législatives aussi au Royaume-Uni en juillet et puis aux États-Unis la présidentielle en novembre. Est-ce que le retour de l'aléa politique, c'est pas la meilleure pub pour les ETF, pour ceux qui veulent investir sur les marchés, plutôt qu'investir sur des valeurs avec un risque, voilà, en fonction de l'exposition au résultat des élections, plutôt investir sur les ETF. Est-ce que c'est pas la meilleure pub à laquelle on assiste là?
Bon, au contraire, j'ai plutôt tendance à penser que c'est l'opportunité de plus investir dans les ETF, parce qu'aujourd'hui, regardez, vous avez investi dans un ETF, vous perdez 8% la semaine, 6% sur le CAC directement.
Ouais, mais si là j'avais investi sur un ETF monde, j'aurais pas pris la baisse du CAC 40, ça aurait
exactement,
été
exactement. Ouais. Mais si vous aviez pris du Nvidia, vous auriez une super perf. Non, surtout, c'est là où on voit aujourd'hui les ETF font uniquement la performance des marchés. L'avantage, c'est qu'à la baisse, entre les liquidités et souvent les choix un peu plus défensifs que l'on peut faire, on a souvent des parachutes assez forts. Et souvent, nous, on a plutôt tendance à avoir ce genre de construction de portefeuille avec des choix de valeurs un peu plus défensifs dans la partie européenne et des valeurs très croissantes aux États-Unis. Donc, être plutôt investi sur ces valeurs que sont évidemment les cinq méga croissances que sont Nvidia et compagnie. Mais justement, c'est là où on peut faire de la différence par rapport à de l'ETF qui perd un peu sa saveur et qui perd toute sa saveur, j'ai tendance à dire.
Ouais, enfin, j'ai un ETF Nasdaq, je suis content a priori.
Ah bah oui, mais si vous avez du Nvidia, du Microsoft et du Apple, vous faites mieux. Ça aussi, on peut aussi le rappeler que de temps en temps, choisir des bons titres, des bonnes valeurs et les garder sur le long terme, ça reste quand même une situation, une solution qui a fait ses preuves en tout cas dans le temps.
On ne peut pas se quitter, Aymeric, sans évoquer quand même Carrefour. Carrefour aujourd'hui perd 4%, lanterne rouge du marché, avec peut-être à venir, c'est la recommandation de Bercy, une grosse amende de 200 millions d'euros pour la façon dont Carrefour s'était organisé avec ses franchisés. Bon, et des franchisés qui peut-être par centaines pourraient choisir de quitter l'enseigne Carrefour. Carrefour perd 4%. Ouais. C'est frappant d'ailleurs de voir à quel point Carrefour souffre en bourse alors que Walmart aux États-Unis, leader mondial, lui, c'est sur des plus hauts historiques. C'est vraiment impressionnant de voir cette divergence.
Ça a toujours été ça entre les US et l'Europe. Walmart toujours bien mieux géré. Ça là-dessus, il y a jamais eu de sujet. Par contre, Carrefour, là, ce qui inquiète beaucoup, c'est l'incertitude par rapport aux franchisés qui pourraient étendre les risques juridiques. Et c'est ça qui, là aussi, on est encore sur les sujets d'incertitude, de volatilité, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un souci, il y a une ouverture d'une enquête, très clairement, avec aujourd'hui du juridique très fort, mais surtout, c'est les répercussions vis-à-vis de l'ensemble des franchisés qui pourraient intervenir et là, pour le coup, mettre à mal vraiment les comptes de Carrefour. Donc là, il pourrait y avoir un impact, c'est pour ça. Après, il faut relativiser. On est au tout début de cette histoire. Le titre perdait jusqu'à 6 à 8% ce matin. Il en perd plus que 4. Donc, relativisons un tout petit peu.
C'est vous qui avez racheté ? C'est vous qui avez racheté ?
Non, on n'achète pas cette valeur. On est plutôt, on préfère là pour le coup aussi Walmart aux États-Unis.
Ah, vous êtes dur.
Ah, je suis très dur, mais en Europe, on a de très très belles valeurs. Tout à l'heure, on
parlait. Ah oui, la preuve, vous préférez Walmart. Hein,
on a de très belles valeurs.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné quelques valeurs qu'on peut faire. En effet.
On peut les rappeler ?
Pardon ?
Ces valeurs qui vous attirent, dont vous estimez qu'elles offrent des points d'entrée, les concessionnaires autoroutiers, là il y a quelque chose à faire à vos yeux.
Oui, Vinci et Eiffage, on avait aussi Airbus, qu'on aime bien également dans
Coup, vous renforcez, du coup, enfin, vous le dites, mais vous le faites.
On arbitre, c'est-à-dire qu'on en profite pour justement aller chercher les valeurs qui ont pour nous le plus de potentiel et surtout qui ont une certaine visibilité sur leur carnet de commandes.
Aymeric Didet, le directeur de la gestion de Pergam, merci beaucoup Aymeric de nous avoir accompagné cet après-midi, de vous prêter au jeu si souvent. La bourse cash, on parle franchement des marchés ici. Et le CAC 40 est en hausse de 0,7%.
4%. On vous interroge aussi dans les yeux sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Et la question du jour, c'est à vos yeux, quand atteindra-t-on le point bas sur le CAC 40? Est-ce que ce sera avant le premier tour des législatives? Est-ce que ce sera dans l'entre-deux tours ou après le deuxième tour? Question qu'on vous pose. Peut-être le point bas a-t-il été passé d'ailleurs. C'est une autre option qu'on vous propose. N'hésitez pas à continuer de voter. On bondira sur vos réponses dans la prochaine demi-heure de BFM Bourse.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Eh oui, parce qu'il n'y a pas de mauvais moment pour se cultiver et savoir apprendre où l'on va. C'est Julie Coenerton et ses experts qui nous guident chaque jour. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Ben nous, on a les experts pour vous éclairer. Et surtout maintenant, vous le savez, il y a deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui est sublime, qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Effectivement, on a une fibre artistique, vous et moi, Julie, et c'est vrai que ce QR code, à chaque fois qu'on le voit, c'est une émotion, quoi. Il est beau. Il est juste beau. Voilà, pour ceux qui nous suivent à la radio, on vous rappelle. Simple et efficace. Et vous pouvez même, juste pour le plaisir de retrouver ce QR code dont vous entendez parler, vous pouvez juste consulter nos replays, juste pour voir apparaître de temps en temps ce QR code, n'hésitez pas. Bon, cette question d'un auditeur, d'une auditrice, d'ailleurs, je ne sais plus très bien, Julie.
On peut pas savoir, là, pour le coup, c'est
vous
Claude.
Vous n'avez pas le prénom.
C'est Claude, mais on peut pas savoir.
Claude. Coup, oui, effectivement, comment savoir?
Bon, Claude, on a précisé.
C'est une question concernant, en tout cas, les compartiments d'Euronext. Il nous demande de la clarté, des clarifications là-dessus.
Mais Claude, il veut, ou elle veut, de la pédagogie.
Bonjour Claude.
Et voilà, il nous rappelle que le fournisseur d'équipements industriels,
Yale, on va dire, ça va être compliqué
aujourd'hui, aimerait rejoindre Euronext Growth, mais Yale se demande ce dont il est question. C'est quoi l'intérêt pour les investisseurs et pour la valeur du titre? Eh bien, on va tout savoir grâce à notre experte du jour, c'est Cécile Aboulian pour Inextenso. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, on va faire simple, hein, Cécile, dans un premier temps. C'est quoi l'intérêt pour un titre d'être transféré vers Euronext Growth?
Alors, juste pour reprendre le paysage global, à Paris, il y a 800 sociétés cotées avec des tailles allant de 0 à 350 milliards pour LVMH. Donc, on comprend que les règles doivent s'adapter selon la taille et les moyens de la société. Et à ce titre, en 2005, Alternext a été créé, qui est devenu Euronext Growth en 2018 pour faciliter la vie en bourse des PME. Alors, Euronext Growth, c'est un marché non réglementé, mais régulé, avec des règles moins contraignantes et entraînant donc moins de coûts, moins d'administratifs. Alors, on peut citer quelques exemples. Par exemple, il n'est pas obligatoire d'avoir des normes ISRS sur Euronext Growth. Il y a une revue limitée des comptes semestriels par les CAC et ils doivent être publiés sur des délais un petit peu plus longs sur Euronext Growth que sur Euronext. Les dirigeants ne sont pas soumis à la règle du say on pay qui implique de faire voter en Assemblée Générale leur rémunération. Et le rapport de gouvernement d'entreprise n'est pas obligatoire. Et effectivement, il y a une déclaration de performance extra-financière qui est obligatoire sur Euronext qui peut faire 50 pages sur les risques extra-financiers et politiques. Donc ça peut être difficile à mettre en place pour les plus petites sociétés. Il y a une vague importante de transferts de transfert d'Euronext vers Euronext Growth avec le durcissement de certaines réglementations et le changement de normes. En 2019, on peut noter l'entrée en vigueur de IFRS 16 qui comptabilisait les locations en dette au bilan et pour certains c'était compliqué. Et en 2021, l'obligation de publier un rapport annuel sous format ESEF, format européen électronique unique. Pareil, ça pouvait être compliqué pour certains.
Alors ça, c'est pour l'intérêt, Cécile, mais concrètement, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur la valorisation du titre?
Alors pour McPhy, c'est donc le deuxième à se transférer sur Euronext Growth. Bah, compte tenu de sa taille, c'est la meilleure option. Depuis son IPO, son cours a été divisé par 4 pour atteindre 70 millions d'euros. Donc son transfert, ça va permettre de, comme on l'a dit, limiter les coûts de cotation. Et avec un flottant important et avec des seuils de déclenchement d'OPA qui sont fixés à 50% plutôt que 30%, c'est aussi une arme anti-OPA, donc c'est intéressant. Et puis il faut noter en termes de valorisation que depuis l'annonce, le titre a repris des couleurs. Néanmoins, peut-être en bémol, c'est de se dire que la société ne sera plus éligible au système de règlement différé sur Euronext Growth, c'est peut-être que ça jouera un peu sur la liquidité, mais il y en a tellement sur McPhy que c'est même pas sûr.
Merci beaucoup Cécile.
Merci Cécile. Cécile Aboulian qui nous accompagne régulièrement depuis les bureaux d'Inextenso, effectivement. Et puis on participe aussi de la pédagogie technique sur les marchés. Évidemment, les tendances de marché, elles dépendent aussi de seuils techniques qu'il faut apprendre à surveiller. C'est ce à quoi on s'emploie chaque mardi, chaque jeudi aussi, grâce au portefeuille trading, Julie.
Et celui qui est l'incarnation de nos seuils techniques, eh bien c'est Alexandre Tixier, notre analyste du portefeuille trading. Bonjour Alexandre.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, on adore les QR codes hein, dans BFM Bourse et on en a un autre aussi que vous pouvez scanner, flasher.
Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, est-ce qu'on va le voir le QR?
Oui, si, on va le voir. Voilà. Il est absolument sublime. On a une passion QR code. Il va apparaître bientôt sur vos écrans. Bon, alors Alexandre, après la stupeur, après les tremblements sur le CAC, on assiste quand même à une reprise de souffle. On tourne aujourd'hui autour des 7600 points. Est-ce que pour vous, d'un point de vue technique, c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on s'inscrit dans une bonne dynamique? Ou est-ce que vous pensez, du coup, à l'inverse, que les points bas, finalement, ils n'ont pas encore été atteints?
Ah oui, cette question des points bas, elle est centrale. Je vous parlais jeudi des 7465 points. Alors vous allez me dire, c'est très précis, mais ils ont été touchés donc dès le lendemain, dès vendredi, sur un accès de faiblesse. On est venu combler intégralement le gap du 26 janvier, mais la situation n'est pas, je pense, nettoyée totalement pour autant. Hein. C'est la question, on y revient. Est-ce que ces points bas ont été atteints ou non? D'ailleurs, j'ai vu que c'était la question d'un excellent sondage qui est posé sur LinkedIn BFM Bourse. Ça, c'est je pense, effectivement, la question que tout le monde doit se poser tout de suite. Moi, à titre personnel, je pense pas qu'ils soient atteints, ces points bas. Tout simplement parce qu'on a eu un stress relativement important, notamment sur les bancaires. Mais ce stress, il était trop contenu pour qu'il s'agisse de vrais points bas. On n'a pas eu ce petit mouvement de peur, vous savez, ce petit mouvement qui dure vraiment quelques heures où ça fond littéralement. Et puis là, effectivement, on peut avoir un rebond massif par la suite. On peut regarder tout simplement Société Générale ou Crédit Agricole là tout de suite, hein, qui tiennent tout juste l'équilibre. Hein, ça reste fragile, donc je pense qu'on peut aller plus bas.
Il y a une valeur qu'on aime bien suivre aussi dans BFM Bourse. Alors, c'est Capgemini. En plus, oui. Vous nous en parliez il y a quelques jours et on aime bien faire du suivi de valeur justement vis-à-vis des abonnés. Là, c'est quoi la stratégie désormais autour de Capgemini?
Alors là, la stratégie, effectivement, nous on avait une ligne de vente à découvert sur la valeur. L'objectif a été atteint, donc la valeur est sortie naturellement entre guillemets. On a ajusté tout ça puisque en cours de position il y a eu détachement de coupons, donc bien évidemment on ajuste l'objectif, mais ça fait tout de même une plus-value de 13%, donc une belle opération de couverture précisément sur un moment de tension du marché.
Merci beaucoup Alexandre Tixier, l'analyste de ce portefeuille trading BFM Bourse. À jeudi, après-demain, pour de nouvelles aventures Alexandre. Ce portefeuille, donc, on peut le retrouver en flashant, en scannant le QR code qui a fini par apparaître. Pour ceux qui nous suivent à la radio, il faut nous suivre aussi à la télé. Julie Connerton nous accompagne aussi.
Merci
pour de nouvelles aventures.